Radio Okapi. Le journal Mimi Ngumba Mulongo.
Un décès à la suite de fortes pluies abattues ces derniers jours dans le territoire de Nyiragongo, dans le Nord Kivu. Plusieurs maisons emportées et autres dégâts matériels enregistrés. Échauffourée ce matin entre éléments de la police et habitants du quartier Luowoshi, ils protestent contre l'insécurité grandissante dans ce quartier de la commune annexe à Lubumbashi. Dans la deuxième partie de cette tranche, nous vous proposerons la revue de presse kinoise, l'actualité internationale et la page sportive. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, nous venons de l'apprendre, une personne est morte dimanche et 70 maisons emportées après de fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur les localités de deux groupements du territoire de Nyiragongo. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Goma. Face à cela, la société civile locale plaide pour une assistance d'urgence aux sinistrés. Marc Maroufimbu nous en parle.
La société civile noire de Kibumba et Buhumba renseigne que, depuis des semaines, des pluies diluviennes s'abattent sur la région. Plus grave, des eaux de pluie provenant du village Mutovu au Rwanda, où des canalisations d'eau seraient orientées vers la frontière congolaise, détruisent tout sur leur passage. Dimanche dernier, une personne est morte, plusieurs maisons emportées et une certaine des champs détruites. La société civile de ces deux groupements plaide pour une assistance aux sinistrés. Alphonse Sebwawe, président du noyau de Kibumba.
Nous demandons au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de faire une descente urgente. Il serait pour identifier tous les dégâts commis là-bas. Et puis, si il y a moyen vraiment qu'on apporte une assistance humanitaire parce que c'est catastrophique avec une environ de 3000 populations qui sont là-bas à cause de ces dégâts.
La société civile locale demande aux autorités de mettre en place un système de déviation des eaux provenant du Rwanda pour mettre les populations et leurs biens à l'abri. Contacter le ministère de l'Urbanisme et Habitat ainsi que celui des Affaires sociales disent qu'une équipe sera dépêchée incessamment sur terrain pour faire l'état des lieux avant toute décision et assistance. Goma, Marc Maroufimbu, Radio Okapi.
La population de Bunyakiri en territoire de Kalehe s'est dit excédée par les conséquences de l'état très avancé de la route Miti-Ombo, un tronçon de 50 km qui traverse le parc Kaouzi-Biega, mais que les véhicules prennent 3 semaines au moins ou 1 mois pour le parcourir. Selon les activistes de droits de l'homme, les conséquences sont incalculables, surtout dans le ravitaillement en biens de première nécessité. Stino Malingabo appelle les autorités de penser à la réhabilitation de la route comme promis au mois de février dernier. Il le dit à Michel Chirimwami.
Aujourd'hui, pour qu'un véhicule quitte Bunyakiri vers Bukavu, qu'il fait 3 semaines à 1 mois en cours de route. Ce n'est pas n'importe quel véhicule. Maintenant, imaginez-vous ça. Aujourd'hui, nous payons un sachet de sel qui était à 300 francs. Ça revient à 900 francs congolais. En plus de cela, pour qu'un savon pour lessiver les habits, qui était à 200 francs, ça revient à 500 francs congolais. Pour qu'un bidon d'huile quitte à Bunyakiri vers Bukavu à bord d'une moto, un bidon d'huile paye 8 000 à 10 000 francs congolais. Maintenant, c'est le moteur qui se donne maintenant pour transporter les huiles de palme à Bukavu. Vous savez que les marchandises que nous vendons ici à Bunyakiri, ce sont des huiles de pâte et des cossacks de manioc et des arachides et d'haricots. Maintenant, pour que cette marchandise quitte à Bunyakiri pour faire nourrir les gens de Bukavu, ça devient maintenant très difficile.
Rappelons que le gouvernement provincial avait promis en février dernier que dans 3 mois, cette route allait être réhabilitée. Le ministre provincial des infrastructures n'a pas pu être joint pour une réaction. Vive tension depuis ce matin au quartier Luowoshi dans la commune annexe à Lubumbashi. À la base, des échauffourées qui ont opposé des éléments de la police aux habitants de ce quartier qui protestaient contre l'insécurité. En effet, un groupe de bandits armés a tenté de cambrioler une maison la nuit dernière. La population en colère a incendié une partie du marché Zambia et a pillé des kiosques, boutiques et magasins. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais d'autres sources parlent de quelques blessés. Nous viendrons sur cette information avec un peu plus de détails dans nos prochaines éditions. Vive tension ce lundi à l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka. À la base, la revendication des étudiants des licences de différentes options. Ils réclament l'arrivée des professeurs visiteurs pour des enseignements de qualité à quelques semaines de la clôture de l'année académique. La police qui est descendue sur les lieux pour remettre de l'ordre a procédé à quelques interpellations et l'institution reste déserte. De précision dans ce reportage de Paul-Richard Malengela.
La manifestation de ce lundi, couverte depuis le week-end dernier, a reconnu Oscar Lowenga qui assume l'intérim du directeur général en mission. En première ligne, a-t-il ajouté, les étudiants de licence département de français, d'histoire et de gestion GAICEF. Ces derniers se sont dit inquiets de l'absence des professeurs visiteurs à moins de 2 mois de la clôture de l'année académique. Pourtant, souligne-t-il, ils auraient tous payé la totalité des frais académiques, y compris la motivation à ces professeurs. Et leur colère s'est enflammée, ayant appris que l'Institut s'apprêterait à confier leurs cours à certains chefs de travaux et assistants locaux. D'où des barricades qu'ils avaient posées lundi matin à la grille centrale, en vue de paralyser toutes les activités à l'ISP Mbandaka. Ainsi, les autorités académiques vont inviter la police, qui a donné des coups de sommation, ce avant de défaire ces barricades et de continuer à garder le campus. Les étudiants ont signalé l'interpellation de leurs camarades. De Kinshasa où il est en mission, le directeur général de l'ISP, l'abbé Patrick Mbawo, a appelé les manifestants au calme. Il promet d'annoncer une bonne solution à son retour le mercredi prochain après ses contacts avec certains ministres du gouvernement central. Mbandaka, Paul-Richard Malengue, la radio Okapi.
Nous restons à Mbandaka où le PPRD vient de déposer une plainte contre un internaute qui a publié des images hostiles au parti politique et ses dirigeants. Selon le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation, sensibilisation et propagande en mission dans la ville, les images émaneraient d'un certain Joseph Lokondo, mais qui se trouve être un jeune militant de la Lucha, lutte pour le changement. Des images publiées sur les réseaux sociaux. Au cours d'un point de presse hier lundi, Jean Tsa cadre du PPRD a affirmé que l'avocat conseil de ce parti a déjà porté plainte au niveau du parquet général de Mbandaka à cet effet. On l'écoute au micro de Paul-Richard Malengela.
Nos enquêtes, nous sommes tombés sur un nom, une identité internaute d'un certain monsieur Joseph Lokondo. Il agit avec un numéro orange. Toutes les images, vidéos comme photos, partent de ces numéros-là. Et moi-même qui vous parle, j'ai contacté les numéros et celui qui détient ces numéros s'appellerait monsieur Nelson. Nous avons posé des questions. J'ai par devant vous une photo qui montre une scène où on brûle des insignes. C'est lui qui les dit dans ses comptes Facebook et WhatsApp. Et quand nous l'avons eu au téléphone, monsieur a dit qu'il était en Mbandaka. Nous avons déposé une plainte en bonne et due forme au niveau du parquet. Nous voulons obtenir réparation. Le PPRD est un fait privé. Les biens du PPRD ne sont pas le bien de l'État. Nos animateurs de base sont là. Nous avons reçu aucune plainte où, dans cette ville de Mbandaka, on a agressé aucun membre du PPRD. Aucun endroit où on nous montrerait les restes d'un drapeau brûlé.
De sa cachette, Joseph Lokondo a déclaré qu'il vit en clandestinité puisque M. Jean Tsaka lui prémédite la mort et a mis à sa trousse des jeunes bérets rouges du fait qu'il est militant de la Lucha. Quant aux images, il dit les avoir téléchargées des réseaux sociaux. Certains jeunes qui ont projeté d'organiser le meeting de samedi dernier à Bounia disent vivre dans la clandestinité depuis le week-end. Ils accusent les services de sécurité et la mairie de les traquer pour les arrêter après leur activité qui avait pour objectif de dénoncer la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou. Ils en ont été empêchés par le maire de la ville. Ce dernier rejette ces allégations des jeunes qu'il qualifie de prétexte pour se faire valoir dans l'opinion. Isaac Remoyope nous explique que la situation dans son reportage.
Parmi les personnes qui se disent menacées par les services de sécurité, il y a les jeunes notables de la chefferie de Warpalar en territoire de Mahagi, Gracien Irachan. Il affirme que les agents des services de sécurité ont cerné la nuit de samedi sa maison pour chercher à l'arrêter. Selon lui, les autorités lui reprochent d'être à connivence avec certains leaders politiques pour tenter de déstabiliser la province. Gracien Irachan.
Depuis ces jours-là, on a organisé ces meetings-là. On a cessé d'être inquiété par les agents de la sécurité, les maires de la ville. Gracien Irachan, c'est quelqu'un qui est financé par Moïse Katumbi, qui est en train de travailler avec des gens qui font des rébellions en Ituri, et pourtant c'est vraiment faux.
Certains membres des structures de la jeunesse se disent également menacés par les services de sécurité à Bounia. Goulan de Oujo Jackson, membre du comité de la jeunesse Lori.
Depuis le samedi là, nous sommes en insécurité, nous n'arrivons même pas à passer nuit à la maison.
Le maire de la ville de Bounia indique qu'il n'y a pas de raison de traquer ces personnes qui brandissent ces allégations comme un prétexte. Fimbo Lebilier.
Nous ne sommes pas là pour suivre qui fait quoi, qui est derrière qui. Chacun est libre de se mettre derrière qui il veut et nous ne sommes pas là pour s'inquiéter mutuellement. Pour ça, il ne faut pas chercher des boucs émissaires pour se positionner.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Retour à Lubumbashi pour parler du lancement hier lundi des travaux de construction et réhabilitation du cachot du commissariat de la police dans la commune de la Kenya. C'est le procureur de la République qui a procédé à la pose de la première pierre de ce projet à impact rapide financé par la MONUSCO. Trois cellules seront construites ainsi que des lieux d'aisance pour un coût de plus de 6 000 $ américains. Le point avec Nelly Kabena.
Le cachot du commissariat de Kenya servait aussi de cachot pour les enfants en conflit avec la loi au tribunal pour enfants. Il y a deux cellules, une pour les hommes et l'autre abrite les femmes ensemble avec les enfants. La Ligue internationale des conseillers, une ONG locale de défense des droits de l'homme, partenaire du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, va construire de nouvelles cellules, de latrines et réhabiliter tout l'ancien bâtiment. Il s'agit d'un projet à impact rapide de la MONUSCO dont l'objectif est de renforcer les mesures sécuritaires et améliorer les conditions de détention des femmes et des enfants. Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Lubumbashi, a, pour sa part, salué ce partenariat. Il a estimé que l'appui de la MONUSCO va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de détenues femmes et des enfants. Les travaux vont durer 3 mois et coûteront plus de 6 000 $américains. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence des autorités politiques et judiciaires de la province. De Lubumbashi, Nelly Falon Kabena, Radio Okapi.
Publication au journal officiel de la liste de partis et regroupements politiques devant prendre part aux élections. Le Conseil national du suivi de l'accord déplore ce qu'il qualifie d'incohérences et des contradictions contenues dans cette liste par rapport notamment à l'accord du 31 décembre 2017. Tout en invitant les partis concernés et l'opinion au calme quant à ceux, le CNSA promet de s'investir pour rechercher des corrections qui s'imposent. Le CNSA s'est ainsi exprimé hier lundi à Kinshasa, à l'issue de sa plénière extraordinaire. Valentin Vangui, rapporteur du CNSA.
Le CNSA se réunit ce lundi 14 mai 2018 en séance plénière extraordinaire sous la présidence de M. Joseph Olenga Nkoy Mukundji, son président, pour prendre connaissance de la liste de partis et regroupements politiques publiée au journal officiel sous la signature du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, du gouvernement d'Union nationale issu de l'accord du 31 décembre 2016. Ayant constaté de nombreuses incohérences et contradictions contenues dans la dite liste par rapport à l'accord du 31 décembre 2016 et aux recommandations du CNSA, le CNSA s'engage à rechercher les corrections nécessaires. Il appelle les partis et regroupements politiques concernés ainsi que l'opinion publique au calme.
De son côté, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, demande au ministère de l'Intérieur d'annuler les arrêtés qui sont à la base du dédoublement de partis et regroupements politiques. Pour le président d'ACAJ, ces arrêtés violent la loi sur le fonctionnement de partis politiques en RDC et portent des germes des conflits pendant cette période préélectorale. Georges Kapiamba l'a dit hier lundi à Kinshasa lors d'un point de presse. Et là, il est au micro de Paul Matendo.
Nous demandons au gouvernement de respecter la loi sur les partis politiques qui interdit formellement d'adopter ou de faire adopter ou de consacrer l'existence d'un parti politique qui veut porter la dénomination d'un autre qui existe déjà. Parce qu'en le faisant, le gouvernement contribue à créer les germes de chaos dans le pays. Ce n'est pas ça la mission d'un gouvernement. Nous demandons tout simplement que le ministre de l'Intérieur annule tous les arrêtés portant agrément des partis politiques qui viennent s'ajouter aux autres en employant soit la même dénomination ou en se faisant attribuer de manière frauduleuse les numéros des arrêtés qui existent déjà pour les autres.
Actualité, Afrique Monde.
Commençons par la Gambie où Rohey Malik Loé entre dans l'histoire en qualité de première femme gambienne à être élue maire de Banjul, capitale du pays. Elle est membre de la formation au pouvoir, le Parti démocratique uni. En effet, les élections municipales ont eu lieu samedi dans les régions des Banjul et de Kanifing en Gambie. Et le fait marquant, c'est l'élection d'une femme à la tête de la mairie des Banjul, la capitale de la Gambie. C'est ce qu'a fait savoir la commission électorale. En Centrafrique, on parle plutôt démonstration de force de l'armée française pour intimider les rebelles. Cela en appui à la mission de l'ONU en Centrafrique, MONUSCA. Des avions de chasse ont survolé Kagabandoro, où des groupes armés avaient menacé mi-avril de lancer une offensive sur Bangui. Notez que des violences ayant fait 24 morts et plus de 170 blessés le 1er mai dernier à Bangui font craindre une résurgence d'affrontements intercommunautaires à grande échelle. Ces derniers avaient éclaté après la descente sur Bangui de la rébellion de la Seleka, composée de nombreux musulmans qui avaient renversé le président François Bozizé. Des dizaines de Palestiniens ont été tués hier lundi lors de manifestations à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce mardi. En effet, les soldats israéliens ont tué 58 Palestiniens et en ont blessé 2400 autres, dont 1350 par balle, à la frontière de la bande de Gaza hier lundi lors de manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza. Entre-temps, la direction palestinienne crie au massacre, alors que le premier ministre israélien a justifié l'usage de la force par le droit d'Israël à défendre ses frontières contre les agissements terroristes. De cette situation, les réactions les plus sévères sont venues de l'Afrique du Sud et de la Turquie. Ces deux pays ont carrément rappelé leurs ambassadeurs en Israël.